Eh bien, à nouveau avec notre chroniqueuse au Ludivine Clouzot. Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Alors Ludivine, on va terminer une série de chroniques sur l'eau au Bénin, ce pays d'Afrique de l'Ouest, petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu de la situation de l'eau dans les écoles au Bénin. Alors tu veux un petit peu nous expliquer d'abord, est-ce que les élèves des écoles béninoises ont accès à l'eau?
Mais avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste vous dire un peu les écoles que j'avais visitées au Bénin. Quand j'y suis allée, donc j'en avais visité 8 écoles primaires dans 3 villes différentes. Donc Cotonou dans le sud du Bénin, qui est la ville la plus grosse du Bénin. Pobé, une ville un peu plus petite mais toujours dans le sud. Et Djougou, qui est dans le nord du Bénin.
Très
bien. À chaque fois, on a visité une école privée et une école publique pour bien voir les différences. Et à Cotonou, en plus de ça, on a visité une école qui avait été construite par une ONG locale et une école qu'on appelle une école communautaire à entrepreneuriat conscient, qui fait partie d'un réseau québécois de l'OESSEC. Et donc, les écoles que j'ai visitées, ça allait de 50 à 2000 élèves. Donc vraiment pour dire qu'en gros, j'ai vu vraiment différentes tailles, différentes conditions, ce qui m'a permis de voir différentes situations au niveau de l'eau.
Alors justement, quelle est cette situation ?
Alors, donc c'est très varié. Dans les cas les plus démunis, alors ils n'ont pas du tout de point d'eau dans l'école. Et donc, soit ils vont aller en acheter en ville, comme on avait parlé la dernière fois, sous forme de sachets plastiques où ils remplissent des bonbonnes. Ou alors, ils demandent aux enfants d'en amener. Mais bon, ça, c'est plus compliqué. Et quand ils ont de l'eau, parfois, ils en ont, mais ils ont un seul point d'eau pour toute l'école. Alors là, forcément, en fonction de la taille de l'école, quand on est dans les écoles à 2000 enfants, ça fait... c'est compliqué.
Et oui.
Et j'avais vu une école seulement qui avait plusieurs robinets à l'extérieur, mais la majorité était cassée. Donc bon, ça servait pas à grand chose. Et une école privée de Cotonou où là, l'école était tellement magnifique, même plus belle que certaines écoles qu'on a ici. Et là, ils avaient comme nous des lavabos, des points d'eau. Donc ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on a, mais c'est très rare ce genre de structure.
Des grandes disparités, disons, hein.
Oui, vraiment.
Ok. Maintenant, pour les toilettes, comment ça se passe?
Ah oui, ça fait toujours sourire quand on parle des toilettes, mais c'est important de parler des toilettes parce que c'est vraiment un luxe qu'on a ici. On se rend pas compte à quel point c'est essentiel et que dans plein de pays, ils en ont pas. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, c'est que justement, parfois, il n'y a pas de toilettes. Pour les filles, ça pose des problèmes et qui vont pas à l'école à cause de ça. Donc, c'est vraiment un sujet important. Donc, j'ai vu une école où il n'y en avait pas du tout de toilettes, et là du coup les élèves allaient dans la nature derrière l'école pour aller faire leurs besoins. Donc là on voit bien que niveau intimité et problèmes autres, ça peut être compliqué. La majorité en avait quand même, mais pas beaucoup, et puis très basique, hein. Là on parle de toilettes, c'est ce qu'on appelle en France les toilettes turques, c'est juste un trou dans du béton, et il y a pas de chasse d'eau. Et certains, alors par contre, c'était drôle, j'avais jamais vu ça, mais certains, ils ont la petite cuvette en béton quand même.
D'accord.
Mais il n'y a pas de chasse d'eau, toujours pas. Et même quand il y a des toilettes, faut savoir que la défécation en nature est très, très pratiquée. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a des toilettes que les gens l'utilisent.
Voilà. Alors, on voit qu'il y a des grandes disparités, qu'il n'y a pas d'eau, nécessairement accès à l'eau, que même pour les toilettes, il n'y en a pas, il n'y a pas de chasse d'eau. Est-ce que tu peux concevoir des solutions?
Oui, j'ai vu des solutions intéressantes, et c'est marrant parce que quand on pense innovation, on pense pas toujours à l'Afrique, mais finalement c'est dans ces pays où ils en ont vraiment besoin qu'ils ont pas le choix de trouver des solutions innovantes. Et alors déjà, certaines écoles, j'ai beaucoup aimé, ils avaient des responsables de l'hygiène et de l'assainissement. Ça faisait très joli comme nom. C'était des enfants qui vérifiaient donc l'état de propreté des autres enfants, mais aussi de l'école, et qui s'occupaient de l'eau, des toilettes. Donc c'était assez intéressant. Et dans certaines écoles, j'ai vu des bassines d'eau à l'entrée des classes. Et je me demandais un peu à quoi ça servait. Et justement, j'aimerais raconter une petite histoire à ce niveau-là que je trouve très, très intéressante. Donc, c'était dans une école, une ONG qui voulait installer des robinets d'eau. Et il y avait une femme de cantine qui était illettrée, donc qui ne savait pas lire et écrire, qui leur a demandé « Mais combien coûte un robinet d'eau ?» Donc, l'ONG lui a dit le prix qui était assez élevé. Et elle lui a dit « Combien vous voulez en mettre ?» Et l'ONG lui a répondu 7-8, sachant que c'était d'une école où il y avait 1000 enfants. Et la dame lui dit, d'accord, mais quand on a une récréation le matin de 20 minutes, comment vous faites en sorte que les 1000 enfants se lavent les mains autour de 7 robinets d'eau?
Voilà, un problème de mathématiques intéressant ou de logistique.
Exactement. Et donc là, ils ont fait « Ah, ok ». Donc, ils lui ont demandé c'était quoi la solution à laquelle elle pensait. Et elle lui a dit « Si vous mettez tout simplement deux bassines à l'entrée de chaque classe, une avec de l'eau savonneuse et une avec de l'eau propre, là, vous avez quatre à cinq enfants qui se lavent les mains en même temps autour de la bassine et qui se rincent les mains. Et vous avez ça pour chaque classe. Et le prix de toutes les bassines pour votre école, ça sera encore moins cher qu'un seul robinet. Et en plus, quand ils rentrent à la maison, c'est quelque chose qu'ils peuvent amener à la maison parce qu'ils ont tous des bassines et donc montrer à leurs parents l'importance de se laver les mains, par exemple, avant de manger.
Donc une solution innovatrice et puis très simple, en fait. Oui.
Exactement, et j'ai adoré ça. Ouais. Voilà, et ça venait d'eux et c'était vraiment pratique. Donc j'ai beaucoup aimé.
D'autres solutions envisageables? J'imagine que les ONG interviennent auprès des écoles, essayent de donner l'accès à ces écoles.
Oui, mais justement, moi quand je parlais avec les enseignants, ils me disaient, même ceux qui n'avaient pas d'eau, ils disaient oui, c'est bien de nous amener l'eau, mais en même temps, par exemple, si les gens ils continuent d'utiliser des contenants sales, on n'aura toujours pas d'eau potable. Donc ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était l'éducation qui était la clé de tout et qu'il fallait vraiment changer la culture et les habitudes avant justement d'emmener des solutions sophistiquées, par exemple.
C'est le temps un petit peu de faire une conclusion sur notre voyage au Bénin. Est-ce que tu as des remarques à nous faire pour clore cette série chronique sur le Bénin?
Oui, que déjà, un peu comme la semaine dernière, que vraiment on a de la chance d'avoir... on ne réalise pas à quel point, par exemple, nos écoles, on prend pour acquis, surtout au Canada, où il y a des petits points d'eau où on peut boire partout. Alors que c'est pas le cas forcément partout et qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des toilettes non plus. Donc encore une fois, essayons d'apprécier ce qu'on a et pensons à ces gens-là qui ne l'ont pas.
Et voilà. Eh bien, merci Ludivine pour cette chronique et puis cette série de chroniques sur le Bénin, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis bien sûr, on te retrouve dans cette chronique la semaine prochaine, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Ok, et quant à nous, nous restons bien entendu sur les ondes de Choc FM.